Premier épître de Jean, et nous sommes arrivés au chapitre 5, qui clôt cette lettre. Cette lettre écrite pour notre joie. C'est ce que l'apôtre Jean a dit au départ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alors, est-ce que vous êtes des bâtisseurs, des constructeurs? Bon, on verra, hein. Ça dépend des bâtisseurs de quoi? Des constructeurs de quoi? Mais on va voir ce matin que on bâtit, on construit. Et nous sommes invités à bien construire. 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà, alors, nous allons ce matin nous intéresser en particulier à la première partie de ce chapitre, avec comme thème la victoire, ce qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde. Nous avons vu, ces commandements ne sont pas pénibles. Alors, quand on lit les commandements ne sont pas pénibles, ça pose la question de notre rapport à Dieu et à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous commande. J'ai commencé en demandant, est-ce qu'on est des bâtisseurs, des constructeurs ? Oui, on est tous en train de construire et de bâtir notre vie. Parce que nous sommes des êtres humains, nous allons construire, quoi qu'il en soit. On peut mal construire, on peut bien construire. La première chose, par exemple, que nous construisons sans doute, dès le début, au sortir et même à l'intérieur du ventre de la maman, c'est par exemple le langage. Tous les enseignants le savent, le langage, ça se construit. Et on construit son langage. On peut le construire mal, on peut le construire bien. 10% des Français maîtrisent moins de 1000 mots. Un Français en moyenne maîtrise 5000 mots. Pourtant, le niveau attendu en fin de CM2, normalement, c'est de connaître 6000 mots. Ça veut dire que la moyenne des Français a un niveau de langage, en fait, qui correspond à la fin du CM2, dans ce qui est attendu. Parce que le langage, ça se construit. À la fin du lycée, le niveau attendu est de 6000 mots. À la fin du CM2, 6000 mots. À la fin du lycée, on est à peu près normalement à 12000 mots. Et quelqu'un de cultivé qui va continuer de construire son langage va maîtriser entre 25 000 et 40 000 mots. Parce que le langage, ça se construit. Dans le petit Robert, il y en a 60 000. Dans le littré, il y en a 132 000. Vous voyez quand même quelqu'un de très cultivé à 40 000 est loin de connaître tous les mots. Et pourtant, nous avons une moyenne plutôt basse. Parce que le langage, ça se construit. Et qu'on peut bien construire son langage ou mal construire son langage. Je vous laisse imaginer comment est-ce qu'on construit mal son langage. C'est en ne fréquentant pas les mots, en ne fréquentant pas des mots nouveaux, en fréquentant seulement les mots les plus courants, puisque nous utilisons dans la vie courante même pas 500 mots. On se contente de cela, c'est ceux qui reviennent le plus, et les autres, on ne les fréquente pas, on ne les connaît pas, on ne va pas voir ni d'émissions, ni de livres, ni de discussions, ni de thématiques qui obligent à exprimer des mots nouveaux, et comme ça, on ne les construit pas. Voilà. Par contre, on peut être dans une autre démarche et dire, moi, je vais construire mon langage, et je vais bien le construire, parce que c'est important. Attention, là, je ne parle pas de manière spirituelle, je parle du... Simplement, c'est un exemple pour dire qu'on est en train de construire. Quoi qu'il en soit, on construit mal et on se construit mal et on peut arriver à 40 ans en s'étant construit avec un langage de 1000 mots. Fin de maternelle, les attendus sont de 2000 mots. Hein. C'est pour nous représenter. Ou on peut bien se construire parce que c'est intentionnel. Et on va construire un langage de manière solide. Ce n'est pas anodin. Par le langage, il y a beaucoup de choses qui passent. Ce n'est pas anodin si l'épître de Jean commence en disant « Au commencement était le Verbe, la parole. » En tant qu'être humain, donc, on parle. On va construire un langage de manière spirituelle. La parole de Dieu nous donne aussi un commandement à propos de comment nous construisons notre langage. Je peux construire mon langage avec des mots grossiers, je peux construire mon langage avec des mots corrects. Est-ce que ça fait partie de la construction de ma vie ? Oui. Voilà un domaine, le langage, en tant qu'être humain, je l'utilise. Dieu a des choses à me dire sur comment je construis mon langage, qu'est-ce qui sort de ma bouche ? Et Jésus, utilement, nous disait... Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre par sa bouche. Il parlait de la nourriture, etc. Il dit, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Parce que ça vient du cœur. Et peut-être je me suis construit avec un langage ordurier. Peut-être ma bouche finalement est une poubelle et je peux m'interroger sur ce cœur qui sort des mots orduriers. En tout cas, le Seigneur veut qu'on s'interroge là-dessus. Voilà juste un exemple. Quoi qu'il en soit, on va se construire. Est-ce qu'on va se construire avec les commandements du Seigneur ou sans les commandements du Seigneur? Je suis un être humain. J'ai donc besoin de manger. Voilà un domaine dans lequel je peux construire avec les commandements du Seigneur ou sans les commandements du Seigneur. Quoi qu'il en soit, je vais construire. Certains vont construire, comme dans Molière, en disant « il faut vivre pour manger ». Vivre pour manger, plutôt que manger pour vivre. D'autres vont construire leur manière de manger de manière addictive. D'autres, au contraire, vont dire « non, moi, la nourriture, très peu pour moi. On est dans l'anorexie ou dans les limites de l'anorexie. » De toute façon, notre rapport à la nourriture va se construire d'une manière ou d'une autre. La parole de Dieu nous donne des commandements. Elle nous demande de n'être asservi à quoi que ce soit. Pas d'addiction, mais la maîtrise de soi. Et puis elle nous dit surtout de manger avec des actions de grâce. Quand je mange, je veux reconnaître que ce que je mange, ce dont j'ai besoin, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui pourvoit à mes besoins. Quoi que vous fassiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un verset biblique. Oui, dans les domaines de notre vie, nous bâtissons dans tous les domaines, tous azimuts, parce que c'est notre existence d'être humain. On peut bâtir avec les commandements de Dieu ou sans les commandements de Dieu. Mon corps. J'ai un corps, voilà, vous ne pouvez pas sortir de là. Vous avez un corps. Vous allez donc bâtir votre vie avec ce corps. Quoi qu'il en soit, on va construire vis-à-vis du corps. On peut construire sans les commandements de Dieu, avec les commandements de Dieu. Tiens, vous avez un corps, ce corps, on l'habille. Vous pouvez dire, depuis quand on l'habille? Non. Ça s'appelle du nudisme, il existe. Par exemple, en Allemagne, ailleurs, des quartiers entiers dédiés à ceux qui se disent, pourquoi habiller le corps? C'est un choix, on peut se construire. Quoi qu'il en soit, on se construit. On peut dire, tiens, mais non, évidemment, je vais m'habiller. Mais il y a différentes manières de s'habiller. Et encore, dans l'habillement, on construit. On peut s'habiller pour montrer aux autres qu'on est supérieur avec des vêtements de luxe, que bien peu de gens peuvent s'offrir, etc. Et tout est pointé pour montrer, au travers de nos vêtements, notre appartenance sociale, par exemple. On peut s'habiller pour mettre en relief nos atouts corporels, notre musculature chez les hommes, ou que sais-je, et puis d'autres atouts chez nos dames. La parole de Dieu nous donne des commandements. S'habiller avec chasteté, par exemple, etc. S'habiller avec humilité, elle dit non pas avec des parures d'or et des vêtements précieux pour en mettre plein les yeux. Bref, dans tout ce qui touche au corps, le Seigneur a des commandements à nous donner parce qu'on construit. Qu'est-ce que je vais faire de mon corps? Est-ce que je vais prendre des substances qui abîment mon corps ou qui ne l'abîment pas? Quoi qu'il en soit, il y a des choix que je vais faire parce que je suis un être humain. Et on peut continuer. Est-ce que je vais me faire des tatouages? Pas de tatouages. Tout ça, ça touche le corps. Le Seigneur a des commandements. on va se construire par rapport au travail. Parce que nous sommes des êtres humains et qu'un être humain est en activité. Bien sûr, il y en a qui vont se construire en inactivité, passer leur temps à ne rien faire et à glander. C'est une manière de se construire vis-à-vis du travail. Etc. Bon, par rapport à l'activité, par rapport au travail, la parole de Dieu a des commandements pour qu'on construise notre vie. Parce qu'on peut bien se construire ou mal se construire. Notre temps, un être humain a du temps. Et il a du temps. Parfois, on manque de temps. Quoi qu'il en soit, on a du temps. Qu'est-ce qu'on en fait? Ce temps, forcément, on va le passer à quelque chose ou à rien. Mais voilà encore un domaine où, parce qu'on existe tout simplement et qu'on a du temps, on va faire des choix et on va construire sa vie vis-à-vis du temps que nous avons. On peut perdre son temps, gâcher son temps ou utiliser son temps de manière inconstructive. On peut l'utiliser de manière constructive. Le Seigneur nous demande des commandements, nous donne des commandements vis-à-vis du temps que nous avons. Rachetez le temps. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour que vous utilisiez le temps que vous avez avec intelligence, avec efficacité et pour sa gloire. Nous sommes responsables du temps que nous avons. Et notre gestion du temps, le Seigneur a bien des choses à nous en dire. L'argent, c'est un domaine de votre existence? Moi, c'est un domaine de mon existence. Eh bien, le Seigneur a des commandements à vous donner concernant l'argent, concernant les possessions matérielles. Parce que je peux bien me construire ou je peux mal me construire. Et c'est la ruine. Le divertissement? De la même manière, le Seigneur a des choses à nous dire. Les relations humaines. Voilà. Grand domaine de l'humanité, ça. Les relations humaines. Je vais construire, hein. Quoi qu'il en soit, de toute façon, parce que je suis un être humain, il y a des gens autour de moi. Je vais donc bâtir. Concernant les relations humaines. Il y en a qui choisissent de bâtir en s'isolant parce que les relations humaines ne les intéressent pas ou leur font peur ou leur font mal. Alors je me coupe et je vis en ermite. C'est une manière de se bâtir vis-à-vis des relations humaines. Quelle relation avec les autres ? Quels gens je vais fréquenter? Quel type de relation je vais mettre en place? Oh, ça c'est l'un des domaines où la Bible a le plus à nous dire concernant nos relations aux autres. D'ailleurs, la chose principale qu'elle nous dit et qui est répétée dans cette épître et dans le chapitre que nous avons lu, c'est l'amour. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour, cette relation envers l'autre qui volontairement décide de construire l'autre. On ne parle pas d'émotion et de sentiment. On parle de qualité de relation qu'on met en œuvre à l'égard de ceux qui nous entourent. Tous azimuts, jusqu'à nos ennemis, dit Jésus. Aimez vos ennemis. On n'est pas dans les sentiments. On est dans quel type de relation. L'amour, c'est la relation. C'est la relation que je mets en œuvre vis-à-vis d'autrui. Une relation bonne. Une relation qui ne s'abstient pas de construire et de faire du bien. Bon, faire du bien, parfois c'est une bonne fessée pour nos enfants. Vous comprenez ? C'est ce qui construit. On est dans ce qui profondément bâtit et construit plutôt qu'abîme et détériore. C'est ça l'amour. L'amour se refuse à abîmer et à détériorer l'autre. Tiens, la Bible a beaucoup de choses à nous dire, hein, sur ce qui constitue notre humanité. Alors, oui, je vais construire. On n'a pas parlé du domaine des pensées. Tiens, parce que je suis un être humain. Voilà tout un champ, mes pensées, tout ce qui se passe dans ma tête. Est-ce que la Bible a des choses à nous dire sur ce qui passe dans nos têtes, ce qui passe, qui repasse, qu'on ressasse peut-être? Oui, elle a beaucoup de choses à nous dire. On peut bien construire le domaine de nos pensées ou on peut mal les construire. Et la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet. On ne va pas approfondir sur cette thématique. Pour bien construire, Dieu donc me donne des commandements. Moi, à la maison, j'ai une dalle de terrasse qui est mal construite. Heureusement, j'en ai qu'une. Elle s'effrite, elle part en miettes. Apparemment, un béton de mauvaise qualité, le dosage ciment, sable et gravier, pas bon. Sans doute une dalle bien trop fine. Et je m'interroge sur son ferraillage. Y a-t-il un ferraillage et la section du fer est-elle suffisante? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'y connais rien. En bâtiment. Vous y connaissez quelque chose, vous, en humanité, pour bien construire?
Oui, il faut être bon.
Mais un seul est bon. Dieu. Tant que nous avons besoin d'un expert. Moi, j'y connais rien en bâtiment, alors je me renseigne et je dis, tiens, je veux faire une dalle. Ben, un ami qui s'y connaît bien et qui m'aime, eh ben, il va me dire, ben, écoute, pour prendre ta dalle, tu prends telle section de fer, pas moins. Oula, mais il est plus cher. C'est cette section-là. Tu prends tel dosage pour ton béton. Ça fait beaucoup de ciment, le sable est moins cher. Tu prends tel dosage. Tu me demandes, je te réponds. Et puis, tu fais pas moins de 10 cm parce que sinon là ça va pas aller. Voilà les commandements de la part de quelqu'un qui m'aime et qui s'y connaît. Et puis voilà que le moment venu, l'artisan auquel je me suis adressé n'est peut-être pas très consciencieux et me dire ça sert à rien. Mais non. Parce que j'ai vu qu'il a posé le grillage là, j'ai dit ouh, il est mince celui-là. Là, c'est largement suffisant pour ce que vous voulez faire. Faites-moi confiance. Le béton, ouais, franchement, non. Celui qui vous a dit qu'il fallait tel dosage, etc., il a un peu exagéré le truc. Hein. D'ailleurs, l'épaisseur, c'est pas la peine de faire 10, on peut se contenter de 5. En plus, moitié prix. Mais attends, moitié prix. Ah, mais c'est plus pareil alors, si c'est plus facile. Vous savez que la vie par la chair est plus facile que la vie par l'esprit? Elle a l'air de beaucoup moins coûter. D'ailleurs, l'artisan peu consciencieux me dit « Oulala, le moisson qui vous a dit tout le contraire de ce que je viens de vous dire, en fait, il veut juste vous prendre de l'argent. Il veut juste vous faire payer double pour rien. » Ça vous rappelle pas le discours de Satan avec Ève au jardin? Dieu, il a dit ça. Il t'a donné tel ordre, telle commande. Oh là, pop. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas du tout ça. Il a dit que tu mourras, tu mourras pas, tu mourras pas. Non. D'ailleurs, s'il t'a dit ça, Dieu, c'est juste parce qu'en fait, il veut pas que tu deviennes comme lui, cet égoïste. Dis donc. C'est tout, c'est un égoïste, il veut pas que tu sois comme lui, et voilà, il te donne un commandement, là, c'est tout. Mais Dieu est celui qui nous aime, Satan ne vous aime pas. Dieu est celui qui nous aime. Il nous aime, et il l'a prouvé en venant en chair et en donnant sa vie, en mourant pour moi, en mourant pour toi. Amen. Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui est prêt à mourir pour vous, puis quelqu'un qui s'y connaît parce que c'est un expert, parce que c'est lui qui a créé l'être humain, et que c'est lui qui connaît l'équilibre, le bon dosage, ce qui va construire, ce qui va détruire. Et celui qui m'aime, non seulement il m'aime, non seulement il sait de quoi il parle, mais il est parfait, il est sans péché, il est bon. Je n'ai pas affaire à quelqu'un de mauvais. C'est terrible d'être aimé par quelqu'un de mauvais. Je crois qu'il y avait un film comme ça, le titre c'était « Harry, cet ami qui vous veut du bien ». Puis en fait c'est un meurtrier, je crois. Enfin, donc, mais c'est terrible. Mais Dieu n'est pas notre ennemi. Par contre, Satan est un meurtrier. Oui, Satan est un meurtrier. Il est juste là pour tuer et égorger. En remettant en cause les commandements du Seigneur. Nous avons donc un Dieu qui nous aime jusqu'à donner sa vie, qui est bon, parfait, juste, qui sait de quoi il parle et qui est expert, et puis en plus, qui a marché là où il nous demande de marcher. Dieu s'est fait homme, il a marché sur cette terre, il a vécu. Il ne nous demande pas de vivre autre chose que ce qu'il a vécu. Mon ami qui me dit « ta dalle de terrasse, tu l'as fait comme ça », c'est parce que lui, chez lui, il a fait pareil. Pourtant, c'était son argent, il aurait pu gagner la moitié, payer moitié moins cher, mais non. Parce qu'il sait que dans 10 ans, dans 15 ans, cette dalle, elle sera comme ma dalle d'aujourd'hui, où elle s'effrite, où faut tout péter et faut tout refaire. Alors, est-ce que ça vous rappelle une parabole de Jésus ? Tout ça. Je vous ai demandé, est-ce que vous êtes des constructeurs ? Quelle parabole de Jésus ça vous rappelle ? La parabole de l'insensé qui construit sa maison sur le sable et du sage qui construit sa maison sur le roc. Et oui, construire sur le roc, c'est plus cher. C'est plus coûteux en effort. Pour mettre des fondations, c'est plus compliqué. Mais ça ne s'écroule pas. Si vous prenez Luc 6, verset 46, vous allez voir quel verset introduit la parabole de ces bâtisseurs, de ceux qui font des fondements, de ceux qui n'en font pas, de ceux qui bâtissent sur le sable, de ceux qui bâtissent sur le roc. Luc 6, 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Moi, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Voilà. Et il commence. On a aussi l'équivalent dans Matthieu avec le sable et le roc. Oui, cette parabole, elle est vraiment donnée parce que Jésus, il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, c'est bien, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Nous avons lu dans 1 Jean 5, Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand je dis, quand je prétends que j'aime Dieu, ça va se manifester par le fait que je garde et que je pratique ses commandements. Pourquoi ? Si je connais véritablement Jésus-Christ, j'ai compris qui il est. Il est Dieu qui m'a aimé d'un amour éternel, qui est venu, qui s'est fait homme, qui a donné sa vie pour moi et qui a marché pour que je suive son exemple. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. J'ai affaire à quelqu'un qui m'aime de tout son cœur, de toute sa vie jusqu'à la mort. J'ai affaire à quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle et qui est expert dans la manière de bâtir sa vie, de bâtir la maison de ma vie. J'ai affaire à quelqu'un de parfait, de juste, sans péché. Eh bien, si je l'aime, j'aime quelqu'un qui m'aime et qui me veut du bien. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Pourquoi ? C'est notre foi. Il dit ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est la confiance. Je fais confiance à un Dieu qui m'aime. Pourquoi est-ce que je peux suivre les commandements du Seigneur et qu'ils ne sont pas pénibles ? Pourquoi est-ce que je vais faire la bonne épaisseur de dalle, le bon ferraillage et le bon dosage de ciment, même si ça me coûte plus cher, mais parce que j'ai confiance, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix, je vais bâtir. Quoi qu'il en soit, je vais bâtir. Ce n'est pas comme si je pouvais ne rien bâtir dans ma vie. Je vais bâtir. Parce que je suis un être humain. Je vais bâtir des relations humaines, je vais bâtir un langage, je vais bâtir mon rapport au travail. Je vais bâtir de toute façon. Et j'ai quelqu'un qui m'aime et qui me dit comment bâtir solidement sur le roc. Je lui fais confiance. Je fais confiance à ce Dieu qui m'aime, qui est expert, qui est parfait. Alors oui, c'est l'amour qui oriente l'obéissance. Quelqu'un cette semaine m'a écrit un SMS en disant la chose suivante. Il m'arrive un truc de fou. La question de l'obéissance était toujours dans ma tête. Pourquoi on devait le faire? Pourquoi c'est aussi important? Dieu m'a appris que c'est l'amour, surtout le sien pour nous. Eh oui. Pourquoi est-ce que c'est important, l'obéissance ? Mais parce que le Seigneur m'aime si fort. Les commandements sont donnés par un amour pour moi, pour que je bâtisse sur le roc. Pourquoi c'est important l'obéissance ? Parce qu'ils viennent de quelqu'un qui m'aime et qui a donné sa vie pour moi. Et qui veut que je bâtisse sur le roc, il ne veut pas que je bâtisse sur le sable. Et le vent est venu, les pluies sont tombées et la ruine a été grande. Seigneur me dit, mais je ne veux pas que tu connaisses la ruine. Moi je ne veux pas que tu bâtisses dans ta vie sur du sable. Parce que je t'aime et je serai tellement meurtri, désolé que ce que tu bâtis dans ta vie, ce soit sur du sable. Et de toute façon, un jour, la pluie va tomber. De toute façon, elle tombera. Et ta ruine sera grande. Quoi qu'il en soit, nous allons bâtir. Souvenons-nous-en. Hein. Ça sera soit sur le sable, soit sur le roc. Les commandements du Seigneur, c'est le roc. Les commandements du Seigneur, c'est la bonne section de ferraillage. C'est le bon dosage de ciment. Mais non, on fait ce qu'on veut. Hein. On peut se laisser convaincre de vivre selon la chair. Ça a l'air plus simple. Mais la vie par la chair amène la ruine. Et vous savez quoi, quand la maison bâtie sur le sable, une fois qu'elle s'est écroulée, non seulement on a perdu ce qu'on avait déjà investi pour construire cette maison sur le sable, même si c'était à moindre coût, mais vous savez quoi, on a aussi perdu tout ce qui était dans la maison. Parce que le gars qui a bâti sur le sable, comme il n'a pas eu besoin de mettre autant d'argent que celui qui avait bâti sur le roc, ben il a pu s'acheter des meubles un peu plus. C'était pas du Ikea, vous voyez ? Eh ouais. Et il était content, il taquinait l'autre qui avait bâti sur le roc. Ah, t'as bâti, ouais. Tu vois, on a la même maison, hein, à peu près la même. Hein. Mais regarde-moi comment c'est dedans. Oh, c'est beau, hein ? Ben, le jour où sa maison elle s'écroule, et ben tous ses meubles, et ben ils sont perdus avec. Tous ses effets personnels, et ben ils sont perdus. Et il y a des choses de valeur qui sont dans la maison, mais quand la maison s'écroule, toutes ces choses sont perdues. C'est une image pour notre vie. Le Seigneur ne veut pas qu'en bâtissant sur le sable dans un domaine particulier, ça s'écroule. Et que ça s'écroule même sur ce qu'on avait correctement bâti, même ce qui était beau, même ce qui était bien, ça prend une claque, ça c'est la ruine de toute la maison. On n'en sort pas indemne quand on construit sa vie sur le sable. On y laisse des plumes. Et en plus, vous savez quoi ? On met sa vie en danger. Lorsque la maison s'écroule, peut-être on est blessé. Et puis on se retrouve à la rue. À la rue. On a beaucoup investi, on a tout perdu. Et il ne nous reste plus cette fois qu'à rebâtir sur le roc. Et on ne passera pas à côté de la dépense à faire. Et vous savez quoi ? C'est incroyable le nombre de gens qui rebâtissent une deuxième fois sur le sable. J'ai bâti une première fois sur le sable. Et je rebâtis ma deuxième maison sur le sable. Vous savez ce qu'il a dit Jésus ? Il dit, moi je vais vous montrer à quoi est semblable un insensé. Ne nous attendons pas à ce que ce soit naturel pour nous de bâtir sur le roc une fois qu'on a pris une claque dans sa vie. Non, c'est une vraie décision spirituelle. Il y a un positionnement spirituel face à Dieu à construire, à avoir, à décider en disant « Seigneur, c'en est fini de la chair. C'en est fini de la chair. Seigneur, je veux cette fois vivre par la foi. » Je veux cette fois triompher du monde. Je veux cette fois vivre, non pas de ce qui est né de moi, mais de ce qui est né de toi, parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Seigneur, je veux être dirigé par ton esprit. Alors, pourquoi est-ce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles? Non seulement parce que nous voyons avec clarté les deux destinées, bâtir sur le roc, bâtir sur le sable. Alors franchement, quand la destinée et l'achèvement, quand c'est clair à nos yeux, il n'y a pas photo. Ben, si je sais que ma maison va s'écrouler, qu'est-ce que tu veux que... Mais non, je vais pas bâtir ma propre ruine. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Le verset nous dit que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En d'autres termes, l'esprit triomphe de la chair. Le Saint-Esprit en nous nous rend capables d'obéir avec joie. D'obéir avec joie. On se souvient de l'introduction de cette lettre. Je vous écris ces choses afin que notre joie soit parfaite. Si je laisse conduire le Saint-Esprit en moi, si je le laisse accomplir la loi de Dieu en moi, ce n'est plus une douleur, C'est vrai que tant que ce n'est pas l'esprit qui conduit, les commandements de Dieu sont pénibles. Ils sont pénibles parce que ce qui pilote en nous, c'est la chair, et que les commandements de Dieu sont opposés à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Et tant que ce n'est pas l'esprit qui pilote dans ma vie, suivre les commandements de Dieu, c'est une douleur de tous les instants. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons été scellés du Saint-Esprit, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, et nous pouvons veiller à être remplis du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous vivons par l'Esprit, alors l'Esprit, de manière naturelle, se tourne vers les choses de l'Esprit et non vers les choses de la chair. C'est une question de nature. Nous, de manière naturelle, notre chair se tourne vers les choses charnelles et donc vers le sable. On est à l'aise là. Et les choses de l'Esprit, c'est dur, c'est douloureux. Ne cherchons pas à ce que notre chair se mette à aimer les choses de l'Esprit, ça n'arrivera jamais. Par contre, le Seigneur nous a donné son Esprit. Et nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Et rester remplis du Saint-Esprit. Et lorsque c'est l'Esprit qui pilote, je crois que c'est dans Galates qu'il le dit, hein, si je marche par l'Esprit, ben tout va bien. Quand je marche par l'Esprit, l'Esprit en moi, de manière tout à fait naturelle, va se régaler dans les choses de l'Esprit, dans les commandements de Dieu. Et tout au contraire, si je suis piloté par le Saint-Esprit, l'option du péché va être une douleur. Le sable va me... Ouh, c'est du sable, mon Dieu. Et ça, c'est un miracle que le Seigneur fait. Ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ? Parce qu'il a placé le Saint-Esprit en nous et nous avons besoin de découvrir, tout simplement, de saisir par la foi cette nouvelle identité. Seigneur, ton Esprit en moi, remplis-moi. Et je veux marcher et vivre et combattre et choisir par ton Esprit. Et le Saint-Esprit en nous va opter de manière naturelle, parce que c'est sa nature, pour les choses de l'Esprit. Et il va les accomplir parce qu'il a la puissance de les accomplir. Amen. Il a la puissance de les accomplir. Et voilà pourquoi les commandements ne sont pas pénibles, parce que le Saint-Esprit en moi me les fait aimer, me fait avec clairvoyance faire la différence entre... c'est quoi l'expression ? Des vessies et des lanternes ? Hein ? Prendre des vessies pour des lanternes, et voilà. Eh ben, grâce au Saint-Esprit, on ne prend pas les vessies pour des lanternes. On est clairvoyant et on ne confond pas le sable et le roc. Et le Saint-Esprit nous fait aimer le roc. Et il nous donne la puissance, la capacité de bâtir sur le roc. Avec joie. Avec joie. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Ce qui est né de Dieu se garde lui-même. Lorsque je permets au Saint-Esprit de prendre le volant de ma vie, de mes choix, de mes décisions, alors ça c'est né de Dieu. Et du coup, je me garde moi-même. Et le malin ne me touche pas. Et les commandements ne sont pas pénibles. La victoire, elle passe donc par la foi qui triomphe de la chair. Là, c'est qui triomphe du monde, qui triomphe de la chair. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Il y a une deuxième chose, et nous terminerons par là, par laquelle la victoire passe aussi. Elle passe donc par la foi, on l'a dit, et par le fait que le Saint-Esprit nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu sans souffrir, sans ce perpétuel déchirement que ressent la chair lorsqu'elle essaye d'accomplir la volonté de Dieu. D'accord ? Ça, on est libéré de ça. Si vous avez ce perpétuel déchirement à faire la volonté de Dieu, c'est parce que c'est la chair qui a ce déchirement. Vivez par l'esprit. Ça n'arrivera plus. Et on peut l'expérimenter. Et des générations de chrétiens ont expérimenté. Lorsque je donne le volant au Saint-Esprit, ce déchirement, il disparaît et il laisse place à la joie. Colossiens nous en parle d'une formidable façon au chapitre 1. La deuxième chose, donc, c'est la prière. La victoire passe aussi par la ressource de la prière exaucée. C'est le verset 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ça aussi, ça fait partie de la victoire. Ce matin, c'est vraiment cette vie victorieuse par la foi qui triomphe de la chair et qui fait que les commandements ne sont pas pénibles et que je peux bâtir sur le roc avec joie et avec efficacité parce que la puissance de l'esprit me rend capable. C'est lui qui me rend capable. Et la deuxième chose, c'est la prière exaucée. Cette assurance d'être écouté par Dieu si je demande quelque chose selon sa volonté et l'assurance de posséder la chose demandée. Ça, c'est une formidable victoire. Ailleurs, l'apôtre Paul dira « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ben, recevez. Demandez. Bien entendu, la clé ici de ce verset et de ce qu'il veut dire pour nos vies, lorsque nous prions pour demander dans cette assurance qu'on sera exaucé, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Si l'Esprit est en moi, il me montre la volonté de Dieu. Prenez en Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous avons besoin de cesser d'être inconsidérés, sans discernement, sans perception, sans jugement de la pensée de Dieu équilibrée et juste. Ailleurs dans l'Ancien Testament, Dieu fait ce reproche en disant « Mais vous prenez votre volonté pour ma volonté. » Vous confondez les deux. Vous confondez votre volonté avec ma volonté et vous prétendez que ma volonté, finalement, elle se cale sur votre volonté. Là, il dit « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comment ? Le verset suivant nous le dit, « Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Si l'Esprit me montre la volonté de Dieu, alors je peux m'adresser au Père en demandant. Certains d'obtenir, pourquoi ? Mais parce que ce que je demande est exactement ce que Dieu veut accomplir. Lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, ça veut dire que ce que je suis en train de demander au Seigneur, c'est justement, ça tombe bien, tiens, c'est exactement ce que le Seigneur voulait accomplir. Et ça qui est formidable, le Saint-Esprit peut me faire discerner la volonté de Dieu, rejoindre en fait ce que Dieu veut accomplir. Je rejoins, c'est pas mes demandes, ma volonté, etc. C'est simplement que mon discernement spirituel rejoint ce que Dieu veut accomplir. Dieu veut accomplir des choses, il a des plans d'amour pour ma vie, oui. Il est celui qui m'aime d'un amour éternel, qui est mort pour moi. Il est cet expert qui sait de quoi il parle et il a des plans d'amour pour ma vie. Et il désire, en me donnant son Saint-Esprit, que par le Saint-Esprit, je puisse, dans mon discernement, dans ma perception des choses, dans ma compréhension, discerner son plan, discerner ce qu'il veut construire, là où il veut aller, ce qu'il veut accomplir. Tout à l'heure, notre sœur nous a parlé de son accident. Le Seigneur n'a jamais promis de nous protéger de tout. Et quand il dit, elle a lu le matin même, je garderai ton départ, ton arrivée, pour dire, Seigneur, tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu n'es pas fidèle à ta promesse. Le Seigneur n'a jamais promis qu'il ne nous arriverait rien. Il a promis qu'il garderait notre âme. Il a promis qu'il ne permettrait aucune situation que nous ne puissions supporter, mais qu'il prépare l'issue pour qu'on puisse la supporter. Et le Saint-Esprit, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, dans la situation par exemple de cet accident, eh bien le Saint-Esprit va nous faire comprendre, va nous faire rejoindre ce que Dieu veut accomplir à travers telle circonstance. Il dit, telle circonstance, je l'ai permise, j'ai un plan, je veux accomplir quelque chose à travers cela. Et dans ce que je veux accomplir, si tu le discernes, tu peux demander ce que tu veux, parce que c'est ce que je veux accomplir, et tu es certain que je t'exaucerai. Pour autant, ne manquons pas de demander. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Commençons par discerner la volonté de Dieu, et puis demandons. Bien sûr, discerner la volonté de Dieu, pour connaître sa volonté, il va falloir que je passe par un processus inévitable et à renouveler. Nous le trouvons en Romains 12. Romains 12, c'est le dernier verset que nous lisons. Soyez, c'est le milieu du verset, soyez transformés, le mot ici c'est métamorphosé en grec, tel quel, un mot qui nous vient direct. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Est parfait. La volonté de Dieu, on le rappelle ici, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Je serais tellement content d'avoir une dalle de terrasse solide, efficace, qui ne s'effrite pas et qui ne demandera pas que j'ai besoin de revenir dessus. Satan, lui, ce qui construit, ça a l'air bon, agréable et parfait. Ça a l'air souvent très agréable. Mais à la fin, on s'en mord les lèvres. Parce qu'on se fait toujours avoir. C'est un séducteur. Que personne ne vous séduise, petits enfants, gardez-vous des idoles. Attention aux mensonges de l'ennemi qui veut nous convaincre que bâtir sur le sable, mais ça va très bien. Qu'est-ce que tu te prends? Mais le sable, c'est bien. Alors, frères et sœurs, nous avons besoin de passer par ce renouvellement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin à l'intérieur de nous, dans notre compréhension, dans notre perception, dans notre intelligence, c'est le mot qui est ici, c'est le nous, c'est la pensée, c'est le cœur. Nous avons besoin d'un chamboulement. C'est pas notre compréhension, nos pensées naturelles. Nous, on adresse au Seigneur des tas de requêtes et des tas de prières qui en fait viennent de notre conception, de notre vision naturelle et charnelle. Comprendre quelle est la volonté du Seigneur, sa volonté est toujours déjà en accord avec la parole de Dieu. Ne commençons pas à demander des choses que le Seigneur n'a jamais promis de donner. Et en l'occurrence, cessons de croire que si nous sommes suffisamment spirituels, nous pouvons demander au Seigneur de nous bénir à tout niveau. De l'argent, pas de problème, une formidable maison, de l'amour, des enfants qui vont bien, qui n'ont pas de maladie d'ailleurs. Et continuons comme cela. Dieu n'aura jamais promis ça. On a besoin d'être métamorphosé, d'être renouvelé, que notre compréhension, notre intelligence soit renouvelée pour qu'on comprenne, pour qu'on discerne ce que le Seigneur veut vraiment accomplir. Parce que ce qu'il veut accomplir, vous savez, c'est surtout dans nos cœurs. C'est dans son Église. C'est dans ce monde, pour qu'on passe des ténèbres à la lumière. Amen. Alors, soyons encouragés ce matin. Parce que nous avons un Dieu qui nous aime. Parce que nous avons un Dieu qui nous supplie de ne pas construire sur le sable. Puis nous avons un Dieu, si nous avons construit sur le sable, qui nous pardonne. C'est l'épître de Jean qui nous le dit. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Tu as construit sur le sable, tu peux construire sur le roc maintenant. C'est dur de construire sur le roc. Alors, il va falloir que tu découvres quelque chose de formidable. C'est d'arrêter d'être déchiré lorsque ta chair essaie d'accomplir les choses de l'esprit. Ça n'est pas possible. Il va falloir maintenant que tu sois rempli tout simplement du Saint-Esprit et que tu marches par l'Esprit. Et là, tu vas découvrir que ces commandements, ben, ils ne sont pas pénibles. Et tu vas découvrir la puissance de l'Esprit en toi pour les réaliser. Et tu vas pouvoir discerner la volonté de Dieu, être transformé au plus profond de toi-même par le Saint-Esprit pour comprendre et ne pas être inconsidéré. Et tu vas avoir cette assurance de la prière qui comprend la pensée du Père, son plan, sa volonté. Et tu vas pouvoir demander et tu vas pouvoir recevoir. Prions. Seigneur, on veut te remercier. Merci pour cette vie de victoire que tu nous ouvres. Seigneur, que nous ne passions pas à côté, mais que nous la saisissions à bras le corps, en y croyant tout simplement, parce que c'est par la foi que nous entrons en possession de l'héritage, et c'est la foi qui triomphe. Seigneur, tu nous exposes ces choses dans ta parole. Peut-être notre raisonnement à l'intérieur de nous a du mal à croire. On pèse le pour, on pèse le contre, on regarde surtout notre expérience. Et Seigneur, lorsqu'on regarde notre expérience, on voit ce déchirement en nous pour accomplir tes commandements. et on n'a pas compris encore que ce déchirement, c'est celui de notre chair. Même si nous aimons ta loi, si c'est notre chair, Seigneur, qui essaye d'accomplir la vie de l'esprit, Seigneur, la chair ne saura jamais se substituer à l'esprit. Aide-nous à comprendre cela et à vivre, à marcher par le Saint-Esprit. Faire les bons choix. T'obéir en ayant compris et en étant submergé du fait que tu nous aimes et que ce que tu nous demandes, ces commandements, ils viennent d'un amour inaltérable pour nous. Merci de ta fidélité, ô notre Dieu. Et c'est par Jésus que nous prions. Amen. Thank you.